Pour ce dernier épisode de la saison, les invités jouent parfois à domicile, comme les comédiens Laura Felpin et Philippe Rebaud, ou sur leur lieu de travail, au théâtre, avec Catherine Froh, ou dans un studio de musique, avec le rappeur Dinos. Une fois que nous étions face à face, Dinos a dit « Et voilà, je m'étais sapé, et il n'y a même pas de caméra ». C'est vrai, mais il y a un Polaroid, quand il fonctionne en tout cas. Un clic pour une image, sans filtre ni retouche, et un autre clic pour enclencher l'enregistrement dès l'arrivée. Vive le son, vive les voix, les films, les spectacles, les livres, les chansons, et celles et ceux qui les font. Les écouter eux, d'où ils viennent, ce qu'ils font, c'est se dire « Mais en fait, c'est moi ça ?» Des échappées d'une saison de Totémique avec comédien, écrivaine ou rappeur, c'est le programme jusqu'à la prochaine heure.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Un chalet de montagne en plein Paris, un matin de décembre, un faux chalet dans la cour d'un vrai hôtel avec des sommets en carton. C'est dans ce décor que m'avait donné rendez-vous François Damiens. Est arrivé le moment de sa carte blanche. J'avais le micro en main et lui, le coude sur une feuille pliée en deux, où j'ai lu Charles Baudelaire, l'Albatros.
C'est un poème que j'avais étudié quand j'étais petit.
Ouais.
Et puis je suis retombé dessus, parce que j'adore la voile, j'adore la course au large. Là, le Vendée Globe, en l'occurrence, là, j'ai bien dessus. Puis évidemment, l'Albatros, ça m'avait interpellé déjà à l'époque, parce que c'est un truc, j'étais à la première édition du Vendée Globe, au premier départ, quoi, quand on dit tout, on l'a mazou à gagner. Et ça correspond à cette période-là où j'ai appris, où j'ai étudié ce poème à l'école de Verlaine. Je blague. Mais donc, je me suis plongé dedans, et là, j'ai mieux compris, en fait, ce dont il s'agissait, en fait. Bon, on voit d'autres choses, quoi.
Et vous voyez quoi, alors ?
C'est là que je vais me tirer une balle dans le pied. Je vois... Si vous voulez que je vous dise tout, j'étais avec ma femme dans la chambre d'hôtel ici. Elle me dit, il faudrait déjà que tu lises une fois, parce que tu vas devoir le lire. Et puis, tu sais de quoi ça parle ? Je dis, oui, oui. Elle me dit, là, je joue pas trop un télo, c'est France Inter, ils vont te prendre pour un con. Et donc, elle me lisait les études, des trucs, elle me lisait. Mais je dis, c'est beaucoup trop compliqué ce que tu me dis. Tu crois que je vais ressortir des phrases comme ça dans une demi-heure ? Je lui dis, tu dois me dire en un mot, t'arrives pas à synthétiser. Donc on s'est engueulé, je suis parti de la chambre en claquant la porte. Et donc maintenant j'y arrive. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu crois que la journaliste va me demander, Rebecca ? Elle va pas me dire, qu'est-ce que tu penses des premières strophes si c'est des alexandrins qui sont mixés avec au féminin, au masculin ? Je dis, arrête deux secondes, je vais pas être crédible une seconde.
Bah là, on a la séquence, là.
Et donc, je vous encourage tous à aller voir, enfin, lire l'Albatros de Baudelaire. C'est un très beau texte. Voilà, quand elle va me retrouver à me dire, ça a été avec l'Albatros, je vais lui dire, ouais, franchement, ça s'est bien passé. Honnêtement, je crois que j'ai tiré mon épingle du jeu. J'espérais que ça soit en direct et qu'on puisse pas aller jusqu'au bout du truc. En plus, je lis très mal, j'ai rien pour m'aider.
Voilà. Va falloir voilà. Y aller quand même.
Ah, je vais quand même le lire.
Bah oui.
Vous voulez pas le lire, vous ? Et je vous paye. On n'en parle plus. Oh. Je vais mettre mes petites lunettes de pompe à essence. Et...
Allez.
Et pas se moquer.
Je le jure.
Baudelaire, l'Albatros. Le texte. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros vastes... J'ai une liaison. En plus, j'avais écouté Reggiani qui l'a vu ce matin. Il avait fait cette liaison, je me suis dit, il faut pas que j'oublie de la faire.
Je suis hyper touchée que vous ayez vachement préparé, mais en fait, ça me touche, je vous jure.
Je sais pas, oui, à fond, je l'ai ici aussi.
Non, mais vous faites tout ça pour éviter de le lire, pour ça. Qu'on écoute Reggiani. Mais moi, j'aimerais écouter François Damiens, ce qu'il le dit, je vous jure.
Allez. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique ailé. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Ben voilà. Ouais. Et vous l'avez étudié à l'école ou pas? Oui.
Non, je l'ai étudié maintenant. J'ai menti. Pardon. J'aime bien les gens qui disent « j'ai menti ». J'ai juste bien aimé le titre, l'Albatros. Je me fais pitié sur France Inter, en plus.
Mais vous l'avez quand même appris au moment du Vendée Globe, ou ça c'était...
Non, c'était moi un mensonge aussi. Tout était mensonge. Mais je suis parti vers le Vendée Globe pour parler d'autre chose.
Ok.
Mais non, mais sinon... J'avais fait un parallèle. Oui, c'est l'acteur. Enfin, le poète incompris, ça parle de ça aussi. Et c'est vrai que je me sens souvent incompris. C'est pour ça que j'utilise souvent des métaphores. Ouais. Et tout ce qui est fait pour tout le monde ne fonctionne jamais avec moi.
Comment ça?
Vous voyez, par exemple, mon téléphone, là, je suis en appel anonyme depuis 10 jours. J'arrive pas à le remettre en numéro visible. En fait, dès qu'on m'explique un truc technique... ça marche pas, mais si je rentre dans un supermarché, je vais rentrer toujours par la sortie, sans faire exprès, c'est pas pour faire le malin, quoi.
Vous êtes un albatros.
Voilà, on y revient.
Ouais, voilà.
La boucle est bouclée.
Where are you going?
Oh.
Spend the night.
Voilà, nous ne sommes plus ni chez Baudelaire, ni en Belgique, mais dans la petite ville de Capeside, aux États-Unis. C'est le début de Dawson, série de la fin des années 90 que la comédienne Laura Felpin a voulu écouter pour Totemic. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette série, elle raconte le quotidien d'un adolescent américain qui se prénomme Dawson. Saison 1, épisode 1, scène 1, nous sommes dans la chambre de Dawson. Il est allongé sur le lit, à côté d'une fille, et tous les deux, ils regardent la télé. Elle s'appelle Joey, c'est une amie d'enfance, et elle décide de partir, parce qu'ils ont 15 ans. Et quand on a 15 ans, on ne fait pas les mêmes choses que quand on en a 7. J'ai proposé à Laura Felpin de jouer la scène en français. Elle interpréterait Dawson et j'annonnerais les répliques de Joey. C'est parti.
Où tu vas?
Chez moi.
Bah, tu restes pas?
Non.
Pourquoi tu passes pas la nuit?
Pas ce soir.
Pourquoi?
C'est comme ça, tu sais, je découche de moins en moins maintenant.
Bah, c'est samedi soir, tu dors ici sans problème depuis l'âge de 7 ans.
Les choses changent, Dawson. Elles évoluent.
Mais de quoi est-ce que tu parles?
Dormir dans le même lit, c'est bien quand on est petit, pas quand on a 15 ans.
Ouais?
On entre au lycée lundi.
Mm-hmm.
J'ai de la poitrine.
Quoi?
Et tu as des organes génitaux.
Ah oui, mais ça, j'en ai toujours eu. Hein.
Pas aussi développé.
Mais qu'est-ce que t'en sais?
Tu as les doigts longs.
Salut! Non, Joey, t'en vas pas comme ça, explique-toi.
Je crois que nos hormones sont en ébullition et ça peut mal se terminer si on fait pas attention.
Mais dis-moi, tes hormones, elles seraient pas un peu amoureuses de moi? C'est génial.
Fin de l'épisode.
C'est trop drôle parce qu'aucun adolescent n'a conscience de dire « J'ai plein d'hormones, il faut vraiment que je rentre chez moi, il est trop tard. » J'ai été folle de cette série. Hein.
Et vous avez fait du doublage. Vous avez commencé le jeu par ça.
Ouais.
Et je crois même que vous avez fait une école de doublage.
Et donc, en fait, pour faire du doublage, il faut, comme pour faire du théâtre, être un... plutôt bon comédien, quoi. Ou en tout cas, être comédien, avoir cette formation-là. Et c'est ce qui m'a poussée, d'ailleurs, après, à aller jouer, parce que c'est ça qui m'a emmenée à me dire, bah, en fait, ce que j'aime, c'est jouer. J'adore faire ça, quoi. C'est vraiment ma passion, quoi.
Mais ça veut dire que la voix est particulièrement importante pour vous. Parce que choisir d'entrer dans le jeu par le doublage comme ça, c'est ça que ça raconte, quand même.
J'adore la voix parce que je trouve que... La radio, même, par exemple, parce que je trouve qu'elle elle convoque l'imaginaire mieux que... C'est plus fort que tout pour moi, quoi. C'est-à-dire que je m'imagine tellement de choses quand j'écoute la radio et ça me fait tellement travailler dans ma tête, je m'imagine des trucs que, par exemple, un jour, Ali Rebéi, que j'ai rencontré entre-temps, dans un café à côté de Radio France, en fait, je vois un mec et puis je l'entends parler, je comprends que c'est Ali Rebéi. Et moi, ça fait... Mais 10 ans que je crois qu'Ali Rebéi, c'est un petit monsieur avec des cheveux blancs, une petite polaire à manches courtes... pardon Ali, je t'adore, mais il a ce truc ou un peu, et donc je me dis, bon, enfin, c'est pas possible que ce soit Ali Rémy, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour dire que ça construit des trucs tellement forts, la voix, pour moi, que c'est extraordinaire, et ça peut tout faire passer, quoi. Et après, c'est un autre exercice encore d'être à l'image et de travailler sa voix en même temps qu'on nous voit.
Vous le faites, ça ?
C'est un point de départ quand j'ai un personnage, en effet. Là, j'ai fait un truc, par exemple, dans un film avec Arthur Sanigou, Un stupéfiant Noël, où je fais une présentatrice américaine avec mon co-auteur et co-acteur Cédric Salin. Bon, ben, genre, c'est, on parle comme ça pendant tout l'épisode et c'est vraiment génial. Et donc, il y a vraiment un truc de... Bah, c'est jouer avec sa voix, c'est vraiment génial. Moi, ce qui me perturbe le plus, c'est la sensualité dans la voix. C'est quand elle est trop performée. Mais
ce serait quoi une voix sensuelle pour vous ? Est-ce que vous pourriez faire une voix sensuelle, là, par exemple ?
Ben, ce serait vraiment quelque chose comme ça, qui serait très, presque dans un souffle. Bonjour. Ça, ce serait pour moi, c'est l'enfer. Ça me met des poils de me le faire à moi-même. Mais non, c'est, ouais, c'est un truc comme ça très... Mais qui est un ton, hein, vous trouvez pas ? Tout dans les podcasts et tout, c'est vraiment devenu un ton un peu. Mais alors, par contre, moi, je remarque que parfois, je me dis, fais gaffe et tout à comment tu vas parler, parce qu'après, quand tu vas t'écouter, tu vas dire, oh là, je parlais trop vite, et puis je suis trop comme ça, comme ci, et tout. Mais ça m'échappe tout le temps... Je crois pas performer en interview. Après, c'est vrai que si on était à Radio France, dans un studio feutré, et qu'on serait dans une émission de France Culture, peut-être qu'un... je m'écouterais, ouais. Peut-être. Mais là, je sais que, par exemple, je m'écoute pas. Et que je vais m'écouter, je vais dire, oh là là, c'est sûr. Ouais, donc, tout va bien. C'est que j'étais moi-même. Ouais, radio.
Un hommage à la salsa et au latino-américain de New York par le roi du reggaeton. Je veux parler de Bad Bunny avec Nueva Yol. Si te quieres divertir.
Otra vez lo sacamos al estadio.
Totémique jusqu'à 10h et sur Inter.
Allez-y, prenez-la.
Je la mets au soleil ou pas pour que
ça... Non, je sais pas, ça va venir toute...
Rencontre avec Neige Sinou.
Si, ça vient.
Écrivaine.
Vous reconnaissez ?
Pas trop.
Je me reconnais jamais sur les photos. Souvent, un visage, ça représente pas exactement ce qu'on est pour soi dans sa tête. Sauf quand elles ont déjà 20 ans. Je sais pas, il y a beaucoup de gens pour qui ça fait ça. Quand on se dit « Ah, j'étais jolie, en fait. » Donc, ça me plaira sûrement dans 20 ans.
Il y a 2 ans, Nej Sino publiait un livre qui est devenu une balise dans l'histoire littéraire et sociale. C'est Triste Tigre. Elle y relate et pense les viols commis par son beau-père entre ses 7 et 14 ans. Cette année apparut La Realidad, un roman de formation où une jeune femme d'une 20aine d'années part au Chiapas, sac au dos, avec une copine pour rencontrer le sous-commandant Marcos. C'est alors l'histoire d'une jeune femme qui découvre un pays et la possibilité d'une lutte sociale.
C'était très sombre aussi pour nous l'avenir. Oui, moi j'étais au lycée dans les années 90, à la fac dans les années 2000. C'était... Mais bon, est-ce que toutes les générations grandissent pas dans des moments sombres aussi? Mais on nous disait, comme on dit encore aux jeunes aujourd'hui, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'avenir, il y avait déjà la crise climatique, il y avait des guerres partout, et vous ne pourrez rien faire là-dedans. Et quand j'ai découvert petit à petit la possibilité de la lutte sociale, c'est-à-dire, c'est pas compliqué, hein, c'est juste le droit qu'on se donne de faire des petites choses. Et ça, c'est... Tout d'un coup, il y a du possible. Quand on participe, quand on réfléchit ensemble, quand on construit quelque chose, même tout petit, même faire une banderole pour aller à une manif, en fait. C'est quand on se donne le droit de faire, avec les moyens du bord. Mais c'est très punk aussi, hein, c'est l'idéologie de faire soi-même avec ce qu'on peut, d'essayer de faire advenir le monde qu'on voudrait voir advenir. C'est-à-dire que l'utopie n'est plus un truc inaccessible, réservé à des élites ou à des gens qui sont au bon endroit au bon moment. L'utopie, c'est tout le temps présent.
Avec les moyens du bord.
Avec les moyens du bord. Et tu bricoles comme tu peux, avec ce que tu as. Alors toujours, on est confronté à « je ne vais pas réussir à changer le monde, je ne vais pas réussir à changer tout ». Il y a quand même toujours cette contradiction-là. On voit bien que dès qu'on commence à faire, dès qu'on commence à participer, on voit la montagne que c'est de changer les choses. Mais n'empêche que, pour moi en tout cas, être présent et pouvoir faire des petits trucs, ça me donne une énergie où je ne suis plus enfermée dans cette position de le monde est atroce et j'y peux rien.
C'est être en mouvement, quoi.
Oui, ça pourrait être ça, être en mouvement ou faire. Être vivant, c'est faire. Donc j'essaie de créer pour moi-même, mais pour mes lecteurs, mes lectrices, des chemins qui permettraient que ce que je donne à lire, ça soit en tout cas des choses qui ouvrent vers la vie. Faire en sorte que les livres, que le langage, que tout ce qu'on construit, ça nous rende plus aptes à vivre.
Appel envoyé, parler après le bip.
Allô, oui ?
Hall d'un immeuble de Montreuil, en bas de chez Philippe Rebaud, comédien.
Vous pouvez entrer.
Ok, ok.
Vous pouvez entrer.
Oui, c'est vous.
En novembre dernier, Philippe Rebaud était clown dans Sur un fil, premier film de Reda Kateb. En février, il était le pote qu'on a envie d'avoir dans À bicyclette de Mathias Mlekuz. Philippe Rebaud m'accueille chez lui sur, je cite, un canapé en poil de chien. Il y a des vinyles de Prince et Stevie Wonder. Par la fenêtre ouverte, on entend des gosses jouer au foot. Et dans son dos, je vois un gros dossier sur la tranche duquel est écrit au marqueur « Bricolographie ».
Ah oui, c'est un projet mi-secret, en fait. C'est le bouquin que je crée. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai un gars qui me... Un éditeur sympa, Philippe d'ailleurs, je le salue. Je sais pas, mon oral lui a fait dire que j'avais un bouquin, et du coup, il m'a dit, mais t'écris, c'est sûr, donc écris-moi un bouquin. Et j'ai dit, ouais, mais voilà, et du coup, ça s'appelle une bricolographie, puisque j'essaie de y faire rentrer, comment je pourrais dire ça, toute ma vie, mais vu de l'extérieur. Mais enfin, comme j'ai vécu, c'est-à-dire, voilà, expliquer comment on devient moi, parce qu'on a écouté Moustaki. Ou parce qu'on a écouté Reggiani, ou parce qu'on a vu tel film, mais du coup, ce serait ma vie vue du ciel.
Vous, vous êtes devenu Philippe Rebaud parce que vous avez écouté Moustaki ?
Ouais. Entre autres, mais oui, oui, oui. Enfin, il y a des gens qui m'ont constitué pour de vrai, dont je peux pas déroger à la règle, quoi. Enfin, c'est les gens de mon enfance, en dehors de mes parents, qui ont été des gens très bien, mais avec qui on n'a pas beaucoup parlé, finalement, comme aujourd'hui on parle à ses enfants. Enfin, c'était pas des... La psychologie, je sais pas comment dire. C'était pas le truc, quoi.
Parce que là, vous avez quoi ? Vous avez 60 ans, c'est ça ?
Ouais. En revanche, j'y ai pensé il y a quelques jours, je me disais, ils m'ont beaucoup parlé en me faisant écouter du Reggiani, du truc. Enfin, moi, je sais pas à quel moment ça a commencé, Reggiani et Moustaki, mais ça a dû commencer très tôt, ça ne m'a jamais quitté. Je suis devenu mélancolique à 5 ans, je connaissais même pas la vie. Donc, c'est le truc que je me dis, Puis bah, je suis devenu ça, parce que quand t'écoutes du Reggiani à 5, 6, 7 ans, et qu'il te raconte la vie, et que c'est un truc qui marche, que tu vois que tes parents, c'est un peu ça qui se raconte aussi, bah, finalement, tu deviens un peu mélancolique, et tu traînes ça, tu dis, oh, je sais ce qui va m'arriver. Comment il va falloir frayer avec ça, bon.
Alors, la voix que vous avez choisi d'écouter aujourd'hui, c'est Reggiani, justement.
Bah, oui, je peux pas. J'ai beaucoup réfléchi, évidemment, mais je me suis dit, mais non. Je peux pas ne pas dire que c'est lui qui m'a constitué. Cette voix-là, cet homme-là, enfin, tout le parcours, mais la voix, ce qui est raconté.
Et on va écouter l'extrait d'une émission qui s'intitulait Discorama.
Ah oui, avec Denise Glaser.
Non ouais, avec la fantastique aussi, Denise Glaser. Ouais. Et c'est un moment, bah, on écoute.
C'est Baudelaire qui écrit cette chose très belle, qui dit, enivrez-vous, il dit, c'est ce que je pense vraiment, il dit, il faut être toujours ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? Ou de vertu? À votre guise. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminué ou disparu, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans trêve, de vin, de poésie, d'amour ou de vertu. À votre guise.
Bon, je le connais par cœur. Enfin, je le connais par cœur. Je suis incapable de le réciter. Je prendrais même pas le risque. Mais je connais cet extrait par cœur. C'est un poète qui dit un poète. C'est comme s'il y avait une internationale des poètes. C'est-à-dire, il sait bien ce qu'il raconte Reggiani quand il raconte ça. Il dit pas juste un poème, le gars. C'est bien ça qui me touche et qui me traverse et qui fait que bah, ça aussi, c'est ce que je suis aujourd'hui. C'est dire, bah, c'est ça qui compte. C'est ça l'international des poètes, c'est les mecs qui disent tout le temps ça. Et enivrez-vous, arrêtez de se faire chier comme ça avec ce... Enfin, arrêtez de nous vendre des vies qui sont pas les nôtres. Je ne sais pas, il faut dire aux gens, enivrez-vous. Mais voilà, enfin c'est...
Et il dit aussi, parce qu'on a écouté plusieurs archives, et puis finalement, au fil de notre conversation, je choisis celle-ci. Mais il dit aussi que son ambition en tant que comédien, c'était de plus être comédien. C'était d'être...
Ouais. Mais moi, je le dirais différemment, j'ai pas le choix. C'est-à-dire, j'ai aucune technique, donc en gros, quand je prends un personnage, s'il y a un personnage, j'essaye de l'être, j'essaye de comprendre, et en général, quand c'est bien fait, je le comprends, je vois pourquoi on est venu me chercher presque, je me dis, bah, je connais ce gars-là. Et de toute façon, je crois que c'est Scorsese qui dit ça, on n'échappe pas à sa nature. Tu veux un mec sympa, tu prends pas De Niro, tu peux le prendre pour pas mal de trucs, mais quand ce mec-là rentre dans un bar, quoi qu'il fasse, il est pas sympa. Il peut être drôle, il peut être inquiétant, il peut être plein d'un truc. Et moi, à l'inverse, si je rentre dans un bar, j'inquiète personne.
Corée, France, Californie, c'est la géographie de cette jeune femme qui se fait appeler Spiltab. La pochette de son premier album le montre à La Courneuve en Seine-Saint-Denis, là où il a grandi. La pochette de son dernier album le saisit à Douala, au Cameroun, là où il est né. Entre les deux sont écoulées 7 années, soit un parcours construit avec le rap en ligne de mire. Au printemps dernier, Dinos, rappeur, était dans Totémique et au seuil du studio de son label, là où il enregistre.
On se met là.
Tous les deux.
Ouais.
C'est l'heure.
Dans le studio, face à la régie.
Qui a trouvé le nom Totémique?
Pardon?
Qui a trouvé le nom Totémique?
C'est moi.
Ok.
Vous en pensez quoi?
C'est bien.
Ouais.
Pourquoi Totémique?
Parce que dans Totémique, il y a Mic comme micro.
Ok.
Et puis Totem, qui est un nom que j'aime bien.
Ok.
Et Dinos. Ça vient d'où, Dinos?
Non, Dinos, c'est un surnom qu'on m'a donné au quartier que j'aimais pas beaucoup et que j'ai adopté parce que tout le monde m'appelait comme ça.
Moi, il y a juste...
C'est mon ventre.
C'est mien. J'ai pas mangé. Ouais, c'est pas grave.
Désolé.
Vous avez fait des études d'art graphique?
Ouais, j'ai fait de l'art appliqué. J'étais pas si bon que ça.
Mais alors, pourquoi avoir fait... Qu'est-ce qui vous a amené à ça?
C'est très long. L'interview ne se passe pas du tout comme je pensais.
Ah! Arrêtons-nous sur cette phrase.
Non, mais je pensais qu'elle était filmée. Donc, mais déjà, les gens, ils savent pas que je suis bien habillé à la radio. Il faut qu'ils s'entendent le dire. Là, je suis bien habillé. Alors que, là, j'ai mis des habits stylés et tout, alors que c'est même pas filmé. C'est ouf.
Vous êtes déçus, en fait. Alors, attendez. Donc là, Dinos porte un long manteau de cuir.
Arrête, je suis timide, là. Arrête, je suis mal à l'aise.
Tout en noir.
Non, je suis plein de timidité, là. On peut pas faire ça, malheureusement. La prochaine, elle sera filmée.
Ok. Mais en dehors du fait que ce soit filmé, vous vous attendiez à ce que ça
comment? Non, pas du tout. C'est franchement une bêtise que j'ai dit.
D'accord. Et du coup, je me souviens plus où on en était, dites.
On en était
aux arts graphiques, parce que je pense que vous voulez éviter la question, non? C'est pas ça?
J'étais nul. Mais j'étais très bon, vraiment très bon en culture. L'étudier l'Opéra Garnier, les expositions universelles, la Renaissance.
Tout ça, c'est des trucs qui vous intéressaient?
Ouais, c'était ouf. De se nourrir autant de culture. Et moi, j'aime me cultiver et comprendre le monde qui m'entoure. Et le fait d'avoir fait ces études d'art appliqué, ça m'a permis de comprendre l'architecture parisienne, comprendre la vision du baron Haussmann, comprendre plein de choses dans mon environnement. Et ça, c'était ouf, ça. Savoir que, la tour Eiffel ne devait pas être là, qu'elle devait être détruite, qu'elle a servi pendant la guerre, finalement, plein de choses. Et moi, j'allais à la tour Eiffel, je me disais, putain, c'est ouf, d'en haut, les gens, ils sont petits, en fait. C'est tout ce que je me disais quand j'étais gamin. Donc, j'avais pas cette analyse-là, cette vision et ces connaissances. Donc, ouais.
L'architecture parisienne, elle n'a rien à voir avec l'architecture de la Cité des 4000. Arriver à Paris et vivre à Paris, parce qu'aujourd'hui vous vivez à Paris, je crois. Comment ça s'est passé?
Passé nouveau.
Dans Hiver à Paris, vous dites « j'ai honte d'être bobo ».
Non, j'ai pas dit ça.
Ah.
Non, c'est ce que je disais, c'est que... Alors c'était un truc ironique où je disais « aujourd'hui j'achète des bouteilles de jus ». Bio à 9 euros le litre, ou quelque chose comme ça que j'ai dit. Je suis très mauvais avec mes paroles. Mais c'est quelque chose comme ça que j'ai dit. Et voilà, c'était une sorte de métaphore pour parler aussi du transfuge de classe. Et d'un moment donné, se dire, mais c'est ouf, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie d'avoir? Et avec du recul, je me suis dit, non, je crois pas que c'est la vie que j'ai envie d'avoir.
Quelle vie?
D'acheter du jus à 9 euros le litre. Voilà. Vous savez tout.
Les 21 et 22 décembre prochains, Dinos sera sur la scène de l'Accor Arena, anciennement Bercy, donc l'une des plus grandes salles de France.
Paris, c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu. Ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je leur ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre. Paris, c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu. Ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je leur ressemble.
Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre.
Changement de lieu, d'un studio d'enregistrement du 15e arrondissement, on passe à une salle près des Champs-Élysées, le théâtre Marieni. J'y ai retrouvé Catherine Fro pour Totémique.
Vous voulez qu'on fasse ça où? Ici?
Ici.
Dans ma loge ou dans la salle?
Dans la salle.
Ça serait pas mal, non?
Ouais, carrément.
Pas, c'est pas de l'image qu'on fait, c'est du son.
Oui.
Mais le son de la salle...
Exactement.
Ça a de la gueule.
Ouais, dans la salle, ça...
Je vais leur demander si... attendez, je vais aller voir. Parce que peut-être c'est ouvert. Là, c'est les coulisses. Vous voyez, regardez, on peut passer par là. Là, c'est pas mal.
C'était en octobre. Catherine Fro jouait Lorsque l'enfant paraît, merveilleuse pièce de boulevard des années 50, et au même moment, elle était à l'affiche d'un des plus beaux films de l'année, Miséricorde, d'Alain Guiraudy. Cette double actualité est à l'image de son parcours entier. Avant de jouer Winnie dans Oh les beaux jours de Beckett, ou Yo-Yo dans Un air de famille des Clapiche Bakri Jaoui, Catherine Fro a fait partie d'une troupe pendant 10 ans. C'était la compagnie du Chapeau Rouge, et chacun mettait la main à la pâte pour faire les décors, tenir la caisse, jouer.
Oh, mais à l'époque, mon père et d'autres gens me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire une carrière individuelle, tu as du talent, tu gâches ton talent. » Ça me faisait un peu froid dans le dos, mais en même temps, j'étais sûre de moi, j'étais bien. Et petit à petit, quand même, on a dû se séparer. Alors, je suis passée à autre chose.
Comment ça s'est passé dans la période qui a suivi, justement?
Je me suis détachée du groupe, avec une certaine douleur, d'ailleurs. Et puis, je me suis lancée toute seule. J'ai eu un trou de 3 ans, 3-4 ans, où je me suis dit, bon, c'est fini. Et là, j'ai fait beaucoup de peinture à l'époque. J'avais un petit atelier dans la cour en bas de l'appartement, là, du petit immeuble. Et ma toute première envie, c'était de faire les beaux-arts, en fait.
Est-ce que c'est des moments, ça, où on est en colère?
Oui, j'avais peur, moi. J'avais de la colère... Oui, une période un peu de dépression, de doute, quoi. Voilà. Bon, à la fois, j'avais quand même l'impression qu'au théâtre, je pourrais faire des choses. J'avais vraiment l'impression que je pourrais avancer au théâtre. Mais le cinéma, j'y croyais plus du tout, hein, mais carrément. Carrément. De toute façon, moi, quand j'ai fait des castings vers 25-30 ans, ça marchait pas du tout, du tout. On me disait que j'étais dépassée. On me disait que j'avais un physique de jeune femme dépassé. Et mon prof, Marcel Bluval, il me l'avait dit. Hein. Il m'avait dit « Oh, Catherine, ça ne sera pas avant 40 ans. » Il avait peut-être pas tort, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas populaire qu'on n'est rien. Et il y a un autre truc, c'est que moi, j'aime bien disparaître quand j'ai joué. J'aime pas trop me montrer. Les interviews, je commence à y arriver. Après, il faut faire le tri dont ça a été dit, mais bon... Mais j'y arrive mieux qu'avant, mais en général, je n'aime pas trop m'exposer en tant que moi. Parce que moi, j'ai l'impression que le seul intérêt que je peux avoir, c'est mon travail, en fait.
On a commencé ce panorama de Totémique 24-25 avec une carte blanche. Et on termine avec une autre, celle de la comédienne Hélène Vincent, qui fut nommée au César dans la catégorie meilleure actrice pour son rôle dans « Quand vient l'automne » de François Ozon. Cette année, Hélène Vincent fut aussi à l'affiche de « On ira », premier film d'Enya Barou. Nous étions dans le bureau de son agent et pour la dernière séquence de Totémique, elle a souhaité lire le discours de Simone Veil pour la légalisation de l'IVG en France.
Faut pas que je pleure. Je voudrais d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Après sa lecture, Hélène Vincent a souhaité faire entendre la voix de Simone Veil à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974.
Actuellement, celle qui se trouve dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin ?
Pourquoi avez-vous fait ce choix, Hélène Vincent ?
Parce que ce texte a énormément compté dans ma vie. Je sortais d'une aventure. Voilà, j'avais eu recours à l'avortement. Et ce texte-là, c'est... voilà, c'est... enfin, dans mon début de vie d'adolescente, vers 12-13 ans, là où on commence à faire traîner les oreilles, là où on ferait mieux de ne pas ouvrir les oreilles. Mais j'entendais des récits. J'ai des cousines qui sont passées par là, toutes seules. Bon, voilà, le droit des femmes. Et aujourd'hui, ce droit pour les femmes de se faire avorter si elles le souhaitent est remis en question dans un certain nombre de pays. Et pour les femmes, rien n'est jamais acquis de façon pérenne. Je crois que tout est toujours sujet à combat. Il y a eu 60 ans entre mes 20 ans et aujourd'hui. Et il y a des questions fondamentales comme le droit à l'avortement et le droit à mourir dans la dignité, la naissance et la fin de vie. Il y a quelque chose là que moi, je relis. Voilà, c'est l'histoire d'une génération. J'espère que ça va... l'histoire va vraiment. Comme le droit à l'avortement a été inscrit dans notre législation, j'espère que le droit à mourir dans la dignité rentrera dans la législation française de la même façon.
Cette rencontre avec Hélène Vincent eut lieu le 28 février 2025. Merci à Coyenne Guyenne pour toutes les années de notre duo à Brasser du son. Merci à Guillaume Giraud et à Anaïs Reinhardt qui ont assuré la relève avec brio. Et c'est Guillaume Roux qui était à la console ce matin. Merci à Perrine Malinge pour la programmation de nos invités, Ilinka Negulesco pour la préparation et JB Audibert pour prendre soin de nos disques chaque semaine.